Dans le contexte thérapeutique malgache, ce contexte thérapeutique est intimement lié au religieux, y compris dans les soins biomédicaux. Donc cette intermédicalité révèle des oppositions, mais aussi des collaborations, qu'elles soient officielles ou officieuses, entre la biomédecine et les thérapies traditionnelles. La coopération entre les systèmes est visible dans les cas jugés incurables pour un des systèmes thérapeutiques. C'est donc en fonction des catégorisations étiologiques locales que les thérapeutes vont diriger les malades vers un autre système de soins et par conséquent vers une autre représentation des maux et donc une autre interprétation des symptômes. À ces complexités s'ajoute la causalité des maux. Les guérisseurs comme les malades différencient les maladies dites étrangères désignant les maux biologiques des maladies dites malgaches désignant les attaques sorcellaires. Distinguons aussi les multiples représentations religieuses des maux, la possession par un esprit bénéfique, la possession par un esprit démoniaque, etc., selon les regards chrétiens ou du culte aux ancêtres. En somme, il est ici question de la portée de la notion de guérison dans un contexte religio-thérapeutique où les offres de soins annihilent l'idée d'incurabilité. Alors, je vais présenter des cas ethnographiques qui sont empruntés à la région Betsileo, donc que vous voyez cernée de rouge sur la carte que je vous présente, et plus particulièrement de sa capitale, Fianarantsou, et de ses proches environs. Alors, ces cas ethnographiques vont démontrer la multiplicité thérapeutique que je vais vous exposer. C'est le cas, par exemple, lorsque un pasteur protestant, luthérien, dit d'une malade atteinte d'un cancer diagnostiqué incurable par la biomédecine. Et là, je le cite, « Il n'y a plus de solution, mais il y a toujours la prière. » Ou encore, dans l'autre cas d'un journal de presse national qui, en titre, en une de l'exemplaire de la semaine, a titré « Guérisseur en herbe, les derniers recours pour les maladies incurables. » Les représentations juxtaposées façonnent alors les trajectoires thérapeutiques. La pluralité des sens accordés aux mots par divers guérisseurs et divers malades créent des étiologies et des nosographies diversifiées qui engendrent de fait des guérisons diversifiées. Il y a plusieurs définitions à la notion de guérison. Ainsi, cette notion de guérison prend alors plusieurs significations selon qu'elle renvoie à des maux biologiques, sociétaux ou encore religieux. En ce sens, un guérisseur jugera un malade guéri là où un autre verra encore la présence de symptômes. Les spécialités thérapeutiques malgaches peuvent être reliées par la question des frontières établies ou vécues par les biomédecins, pour, là je cite les interlocuteurs avec lesquels j'ai mené ma recherche de thèse, donc des frontières établies ou vécues par les biomédecins, par les exorcistes laïcs du mouvement de réveil protestant luthérien malgache né dans cette région de Betsileo, ou encore par les devins guérisseurs du culte aux esprits. Mais c'est aussi l'idée de la perméabilité et de la cohérence de l'accumulation de ces pratiques pour les malades, et plus seulement pour les guérisseurs au sens large. Ces pratiques ne peuvent être paradoxalement ni séparées techniquement, ni rapprochées théoriquement. Finalement, tous ces systèmes thérapeutiques s'imbriquent pour n'en former qu'un au regard des malades. L'anthropologie se doit d'observer les représentations du soin et des maladies au prisme des nuances et de la complexité des catégories conceptuelles locales. Ces dernières sont éloignées de la dichotomie rationnelle médicale qui oppose le diagnostic, le traitement et la guérison au modèle de classification des maladies par le biais des esprits, qu'ils soient surnaturels ou ancestraux, et des rituels pratiqués pour aboutir à la guérison. Ces regards croisés sont donc l'occasion de déconstruire le modèle stéréotypé selon lequel les systèmes thérapeutiques non occidentaux reposeraient sur le lien entre magie, religion et médecine, à la différence d'une biomédecine dite occidentale qui serait inexorablement rationnelle. Comme le soulignent Marc Auger et Claudine Herzlich, et là je les cite, la question première des anthropologues n'est donc pas celle de la vérité ou de l'efficacité de la médecine, mais celle de sa dimension sociale. Notre exemple éclaire alors sur la visibilité du rapport entre médecine et religion. La nature des liens entre ces deux domaines apparaissent tant dans les discours que dans les pratiques des guérisseurs, et à travers les itinéraires thérapeutiques des malades, souvent sinueux. Religieux et thérapeutique se déclinent alors sous des formes particulières et entrent néanmoins en dialogue. Parfois, le religieux subsume le thérapeutique, parfois il est subsumé par lui. Religieux et thérapeutique se confondent ou coexistent comme institutions distinctes. Ils se combattent ou fusionnent, etc. la construction du champ thérapeutique Bétiléo est ancrée dans le religieux, y compris pour la biomédecine. Consulter un devin guérisseur et ou un docteur en médecine n'est pas quelque chose d'anodin. Il est alors fait appel à des représentations de la maladie qui sont bien distinctes. La guérison est un facteur central, mais la causalité du mal est indispensable aux réponses qu'attendent le malade et sa famille en termes de guérison. Les catégories conceptuelles locales évoquent une distinction nette entre ce qu'on appelle les aretinagas, les maladies malgaches ou magico-sorcellaires, et les aretinavasa, les maladies étrangères ou naturelles ou biologiques. Donc ces deux dimensions socio-culturelles se trouvent en résonance en termes de maladies et donc de guérison. Dès lors, le recours à différents thérapeutes afin d'obtenir le diagnostic révélant l'origine du mal ou le sens du mal, pour reprendre l'expression d'Auger et Herzlich, est une mixité nécessaire pour les acteurs du champ thérapeutique. Les spécialistes du magico-sorcellaire aiment à différencier leur travail des techniques biomédicales et plus encore les représentations symboliques des causalités de la maladie. Les schèmes de représentation de la maladie sont centraux. Les représentations de la maladie, suivant le modèle nosographique culturel, régissent alors les itinéraires de l'intermédicalité. À la suite de Sylvie Finzang ou de Régis de Rigbourg, on peut noter que dans le cas des guérisons religieuses, la maladie se détache de sa définition biomédicale. Les spécialistes du religio-thérapeutique, nous dit de Rigbourg, traitent ce que les consultants présentent comme leur maladie, avec les mots que eux imposent sur leurs symptômes. Alors, je vais prendre deux exemples ethnographiques que j'ai rapidement mentionnés en introduction. Donc, le premier étant celui des Toubes. Donc, les Toubes, ce sont les centres d'accueil des malades du mouvement de réveil protestant luthérien. Donc, ces Toubes, dont là, vous voyez la salle d'accueil et de prière d'un des établissements, d'un de ces centres qui se trouve dans la ville de Sianaransu. Ces Toubes, ce sont donc des zones mixtes, à mi-chemin entre les églises luthériennes où sont pratiqués les exorcismes et les salles de soins qui renvoient au code d'un dispensaire. Donc, vous voyez les malades assis sur les bancs de la salle de prière, et debout en fond d'image, vous voyez donc les exorcistes protestants qui sont des laïcs. Hein, ce ne sont absolument pas des membres reconnus de l'église protestante, mais ils sont ordonnés pour exorciser, chasser les démons. Donc, la particularité de ces centres d'accueil réside dans la fréquence régulière donc, des exorcismes qui sont quotidiens, voire plusieurs fois par jour. Les responsables de ces toubes, ainsi que les pasteurs qui participent à leur mise en œuvre, insistent sur l'aspect hospitalier, à la fois dans l'agencement des bâtiments où résident les malades, mais aussi dans les tournées mensuelles du médecin du dispensaire luthérien voisin et dans le rythme des séances de soins. Donc voilà le dispensaire luthérien qui est dans le même quartier que le centre d'accueil. Alors, un des pasteurs qui s'occupe de ce centre d'accueil remarque à propos de la femme médecin de ce dispensaire luthérien, là je le cite, qu'elle donne aussi des médicaments parce que les gens en ont besoin ici. Et c'est ça l'image des soins et de la vie, donc un mélange de prescriptions médicamenteuses et d'exorcisme. Les responsables de ces centres d'accueil entendent ainsi guérir en rythmant les représentations biomédicales et les prises de médicaments chimiques, dans ce cas-là appelés fanafudvasa, les médicaments étrangers, mais aussi proposent en filigrane une dynamique religieuse par les soins et les tentatives de conversion. En ce sens, le pasteur justifie l'affluence des malades dans ce toubi par la position intermédiaire entre guérison religieuse et biomédecine. Je le cite encore, « Ils, donc les malades, n'ont plus de solution dans les hôpitaux ou chez les docteurs. Ils n'ont plus de solution dans les autres endroits, alors ils sont emmenés ici au toubi. » Le pasteur poursuit avec donc l'exemple d'une jeune femme de 21 ans, une résidente de ce centre d'accueil qui est décédée en 2010. Cette jeune fille avait auparavant été hospitalisée donc, à l'hôpital universitaire de Fianarantsoa, où un cancer incurable lui a été diagnostiqué. Après son décès, une messe a été organisée, et au moment de ce culte dit en son nom, le toubi tout entier a été fermé, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare, puisque les malades sont susceptibles d'arriver n'importe quand, de jour comme de nuit, donc là, fait extrêmement rare, les portes étaient closes. Parce que de nombreux exorcistes et de nombreux malades, connaissant cette jeune fille, ont souhaité se rendre à la cérémonie. Pour le pasteur qui a mené le culte, je le cite encore, « Le docteur a déjà dit qu'elle avait un cancer. Il n'y avait plus de solution, plus de remède. Elle a habité dans le Toubi pendant plus de 2 mois, mais il y avait toujours des demandes de soins pour elle, c'était par la prière. Elle était vraiment malade et nous, on a combattu pour son salut. Donc malgré le décès, l'idée de guérison était quand même apparente dans le discours du pasteur. Ce même pasteur mentionne les traitements des malades, qui, je le cite toujours, « ils viennent pour prier, pour prendre de la force. La façon dont on s'occupe d'eux reste la même. Que ce soit démoniaque, ou une maladie du corps, ou une maladie mentale, la base, c'est les paroles de Dieu. On prêche, on prie, on impose les mains, voilà les pratiques, on leur donne de l'amour, c'est ça qui permet de soigner beaucoup de gens, on essaye de montrer cet amour comme si on était une famille, et les personnes reprennent vite des forces. » Là encore, il précise bien la particularité du traitement et des guérisons qu'il propose. Donc là, voilà, vous voyez une imposition des mains individuelle et une chasse des démons collective sur la photo qui est à votre droite. La chasse des démons peut aussi être individuelle dans des cas de traitement plus poussé ou alors en dehors des cultes collectifs. Alors, la biomédecine, les dispensaires ou les centres de santé de base ou les hôpitaux ne présentent aucun élément personnalisé dans lesquels les malades, Betsileo donc, de leur région d'habitation, peuvent retrouver leur Betsileoïté ou leur besoin d'un recours religieux thérapeutique qu'ils retrouvent en revanche chez les divins guérisseurs ou dans ce type de centre d'accueil luthérien. Donc ces camps d'accueil du mouvement de réveil sont à la fois un espace d'accueil œcuménique et d'exorcisme, protestant, hein, c'est bien de l'exorcisme protestant dont je parle ici. Pour cela, les responsables s'accordent à dire, et là je cite encore l'un d'eux, « les personnes que Jésus nous amène ici ont des maladies très variées et ont fait beaucoup de choses avant. » Donc il sous-entend par là que beaucoup de malades ont eu des itinéraires de soins complexes et variés auprès d'un biomédecin, auprès de un ou plusieurs devins guérisseurs, etc. Les conflits théâtralisés et les collaborations silencieuses que l'on peut observer ne sont en revanche possibles avec les devins guérisseurs, les Zumbias, qui sont donc ces tradithérapeutes, sont les plus visés par les discours dévalorisants, que ce soit par les exorcismes protestants ou par la biomédecine. Donc ces devins guérisseurs, ils ont une réputation positive. Ils ne sont autorisés à collaborer que lorsqu'on peut valider une réputation positive et des preuves de l'efficacité de leur pratique. Et ça se fait par le bouche à oreille, donc par l'approbation de patients reconnus ou puissants socialement qui vont vanter leurs exploits, ou encore par un éclairage médiatique. C'est là que je trouve mon deuxième exemple. Donc à Antananarivo, la capitale malgache qui se trouve à 400 km au nord de la région où j'ai travaillé, Jessica, une jeune guérisseuse, prodigue des massages dans sa maison et a fait en 2011, vous la voyez là sur la photo, la une de l'hebdomadaire donc, qui s'appelle l'Hebdo de Madagascar. Donc ça, ça date de 2011. Dans cet article, elle fait l'objet d'un long reportage auquel s'ajoutent des témoignages de malades et les commentaires d'une oncologue sur les pratiques qu'elle mène. Donc cette jeune femme, elle est née en 1990 et elle a également été au cœur d'un reportage d'une chaîne télévisée nationale en 2014, donc 3 ans après l'avoir fait la une de ce journal. Là, dans le reportage télévisé, on mentionnait l'affluence des malades qui se rendent chez elle, l'agrandissement de sa maison grâce à tous les gains financiers qu'elle a, grâce à ses multiples réussites, etc. Alors l'auteur de l'article de l'Hebdo de Madagascar que je vous présente ici annonce que Jessica est des pratiques, en somme, et là je cite le contenu de l'article, « ses exploits vont être connus dans le monde grâce à la future présence de la masseuse sur le réseau social Facebook ». Donc ça, c'est la deuxième photo que vous voyez qui fait partie de l'article où on voit une jeune fille en train de lire une affichette placardée sur un des murs de Antananarivo où il est écrit que la jeune fille travaille tel jour dans la semaine, il y a son numéro de téléphone et on précise qu'elle sera bientôt disponible sur Facebook. Donc ce reportage de presse écrite vise à valoriser les pratiques de Jessica. À la télévision, dans la presse ou comme dans d'autres contextes, les guérisseurs sont mis en avant. L'article de presse d'ailleurs débute ainsi « Ces derniers temps, les Malgaches s'intéressent de plus en plus aux guérisseurs traditionnels ». Mais ce qu'il faut noter sur ces points-là, c'est que dans les articles de presse, à la télévision ou dans tout autre contexte plus officiel, plus mis en avant, ils ne sont plus nommés devins guérisseurs, mais masseurs ou accoucheuses, etc. etc. En somme, la visibilité des pratiques se limite aux soins par les simples, donc par les plantes sans manipulation rituelle, ou par l'eau. Finalement, c'est l'appellation de la fonction par la spécialité, donc masseur, accoucheuse, etc., qui va exclure toute référence faite au magico-religieux et ainsi temporiser l'aspect du devin guérisseur plus traditionnel. ça va permettre de lisser un petit peu leur pratique et leur représentation. Alors, la séparation conceptuelle radicale du point de vue discursif, l'est moins du point de vue empirique. Comme le religieux persiste et s'intègre aux soins de la biomédecine et vice-versa, l'espace de soins des devins guérisseurs prend place dans un espace public des cabinets de consultation des médecins, tant par un discours officiel de rejet que par un discours officieux de redirection de certains malades vers des devins guérisseurs. Ça apparaît en particulier dans les cas de sorcellerie, donc les arétines agas, incompréhensibles par les biomédecins de leur propre avis, qui estiment ne pas pouvoir accéder à ce type de demande. Donc, la multitude de propositions et les contradictions entre les représentations qui cohabitent dans le champ thérapeutique sont un moyen de saisir une réalité sociale désordonnée par la maladie. Dans les cas de sorcellerie, donc, les biomédecins vont réorienter le malade mais vers un guérisseur de leur choix et non pas vers n'importe quel devin guérisseur. Et ces biomédecins ne parlent de ces redirections de malades que dans l'espace privé de leur cabinet, jamais à l'extérieur du cabinet de médecine, par peur soit de la réaction de leur supérieur tenue par un discours officiel ne tolérant pas ces envois, soit par peur de la réaction du commanditaire de l'axe de sorcellaire qui pourrait rejaillir sur eux. Pour ce qui est du mouvement de réveil, ils collaborent également avec les biomédecins, on a pu le voir tout à l'heure, particulièrement pour des patients souffrant de troubles mentaux ou d'addictions diverses, donc principalement à l'alcool, aux drogues ou aux jeux vidéo, qui sont traités comme des manifestations démoniaques, mais qui sont leurs traitements les plus reconnus et les plus considérés, en tout cas, par la société. Donc c'est en fonction des catégorisations locales de l'étiologie des maladies que les thérapeutes dirigent les malades vers un autre système de soins et par conséquent vers une autre représentation des mots et une autre interprétation des symptômes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, dans la capitale régionale Fianarantsoa où j'ai travaillé, on est donc en contexte urbain. Et dans le contexte urbain, ces nombreuses propositions thérapeutiques favorisent des comportements d'optimisation des compétences, où les devins guérisseurs vont jongler entre la divination, l'usage magique ou non des simples, la possession, la biomédecine, etc. Donc les pratiques ne peuvent pas être perçues comme deux orientations, mais bien comme les deux sphères indissociables du religio-thérapeutique malgache. L'agencement de ces pratiques incompatibles a priori peut exister par le biais du remodelage, alors à la fois d'une chrétienté malgachisée et associée à la biomédecine, ou d'un culte aux esprits christianisés, etc. Dans tous les sens, ça fonctionne. Donc ça permet de saisir la dynamique du religieux malgache face aux discours établis, qui ont une volonté de distancier et de confronter les représentations des croyances et de la guérison, donc tant du point de vue de la sacralité que de celui de la causalité des mots. Donc voilà, la construction de réseaux est faite plutôt par les malades que par les guérisseurs eux-mêmes, qui parfois n'en ont même pas conscience ou les réfutent, mais cependant, les réseaux sont bel et bien persistants. Alors, les soins magico-religieux et les traitements biomédicaux n'apparaissent pas en opposition, mais plutôt dans une mimétique oppositionnelle, comme l'a souligné Lionel Obadia au Népal. Donc, ces systèmes-là ne s'excluent pas, mais ils ne se mutualisent pas non plus. Les guérisseurs, les malades, voire les esprits, témoignent d'une logique combinant les répertoires de signification et de croyance, et ceux des chaînes étiologiques. Donc ces stratégies interstitielles sont une réponse et un espoir, créant l'absence de la notion d'incurabilité, donc, qui se joue dans un autre espace religieux ou dans un autre espace thérapeutique, par confrontation et par acceptation des connaissances religieuses ou thérapeutiques autres. Donc ces incohérences, les adaptations ou les va-et-vient ne sont pas problématiques, mais ils sont source d'efficacité. Le choix est supplanté par la perméabilité du religieux. Les acteurs interagissent les uns avec les autres. Et les pluralismes religieux et médicaux, créent de l'inédit au-delà d'une simple juxtaposition. Et finalement, la contradiction, elle n'est qu'apparente. La convocation de pratiques de soins combinatoires pérennise une sphère thérapeutique complexe et en constante reconfiguration. Alors pour conclure, je me dépêche, les trajectoires thérapeutiques amènent les biomédecins et les devins guérisseurs à connaître, et les exorcistes également, mais dans une moindre mesure, à connaître les procédés des uns et des autres, afin d'interagir ou au contraire de stopper toute collaboration. Alors le modèle morphologique, mais pas étiologique ni thérapeutique, de la biomédecine est adapté au contexte local. A priori, selon Jean-Pierre Donzon, médecine traditionnelle et biomédecine n'évoluent pas sur les mêmes registres. Les complexités thérapeutiques mobilisent donc des complexités religieuses qui modifient les frontières entre les pratiques religio-thérapeutiques, les rendant ainsi poreuses. Les malades font alors face à des pratiques conflictuelles où les esprits bénéfiques des uns peuvent devenir les démons des autres, et jongle avec les pratiques et les discours afin de les rendre compatibles. Les représentations juxtaposées des mots jouent un rôle dans le cheminement thérapeutique et dans le cheminement de guérison. Si l'exorcisme échoue, c'est que l'esprit doit être invité à s'installer et non pas expulsé. À partir de là, un rituel d'adorcisme est envisagé, etc., ou dans un sens ou dans l'autre. Cependant, les conflits religio-thérapeutiques ne s'opposent pas à une harmonie sociale, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, mais composent plutôt un accommodement du religieux et du thérapeutique. Il faut donc se défaire des catégories fournies par les acteurs du religieux pour saisir les dynamiques du champ religio-thérapeutique et donc se concentrer plutôt sur les itinéraires sinueux des malades. Cette logique d'acceptation de la diversité des soins et du recours à une grande diversité de guérisseurs évoque la possibilité de la guérison et donc annihile l'incurabilité. Si un médecin formule l'incurabilité d'une maladie, le malade ira chez un divin guérisseur, ou bien il ira dans un centre exorciste, etc. À l'inverse, dans un sens ou dans l'autre, tout est remodelable et additionnable. Le discours des malades reflète donc la possibilité infinie des recours et par conséquent des espoirs de guérison. L'absence de la notion d'incurabilité dans les répressions étiologiques ouvre alors toujours une option à venir. Merci.
On a 10 minutes pour prendre quelques questions avant de passer à la communication suivante.
Oui. C'est juste, merci de la présentation, c'est juste un point, l'organisation s'excuse pour les communicants de cette session sur la côté de la vidéoconférence. On a essayé de baisser le son au maximum, ça peut gêner, je suis conscient, et du coup, voilà, on s'excuse pour les
discussions. Ça va mieux,
c'est bien, ça va.
Ça va. Il y a eu un moment où on s'est inquiété.
Mais... Ça a monté un peu. Vous avez entendu, vous, ça n'a pas... Ouais, ça va.
C'est l'image.
Merci.
C'est
ça.
Ouais, sportive.
Il y a des questions à voir ça sur l'exposé. Oui.
Est-ce que les gens parlent facilement s'ils font un culte ou s'ils vont voir vers le médico-religieux? Est-ce qu'ils en parlent au docteur ou est-ce qu'il y a vraiment une confrontation entre les deux soins?
Alors c'est, je pourrais répondre quasiment qu'au cas par cas en fait, parce que un malade qui est déjà, c'est un peu ce que vous disiez ce matin, un malade qui est déjà membre de l'église luthérienne, qui va participer aux chasses des démons collectifs qui ont lieu un dimanche par mois, il va bien évidemment avoir aucun souci à dire qu'il va voir les exorcistes ou à dire qu'il a invité les exorcistes chez lui pour traiter sa maison, son fils malade. En revanche, il aura beaucoup plus de mal à dire qu'il va voir un divin guérisseur. Aller voir un médecin, ça posera pas énormément de problèmes non plus. Tout dépend encore une fois quel diagnostic a été posé. Hein. Si c'est une présence démoniaque, il dira pas qu'il a été voir un médecin.
Clairement, il peut le dire dans la société qu'il est allé voir...
Non, pas dans la société, par rapport aux exorcistes, là, je veux dire. Après, quelqu'un qui va pratiquer chez lui le culte aux ancêtres va facilement dire qu'il va voir un guérisseur. Après, tout dépend aussi du type de mots, parce qu'il y a des mots qu'on verbalise et des mots qu'on garde pour soi. Donc ça, encore une fois, c'est divergent. Et puis, pour le fait d'en parler ou non... aux médecins hospitaliers, de dispensaires ou de centres de santé. Tout dépend aussi du type de médecin. Certains médecins dans les dispensaires, par exemple, qui n'ont aucun matériel obstétrique, vont de fait mettre des alliances avec des accoucheuses présentes dans le quartier. Certains sous forme d'association, de collaboration, d'autres de manière nettement plus officieuse, mais qui vont clairement dire un accouchement difficile qui va se passer à un moment où le médecin du dispensaire n'est pas là et qu'il n'y a qu'une infirmière, autant que la parturiente aille directement chez la doucheuse qui est plus à même de traiter ce genre de cas. Donc tout dépend vraiment et du praticien et des habitudes, je vais dire, religieuses du malade et de sa famille. Et de sa famille aussi, oui, bien sûr.
Éventuellement de ses adhésions antérieures, parce qu'il y a aussi de la mobilité. Oui, allez-y.
Bonjour, merci. J'ai deux questions et je m'intéresse aussi au réseau médico-urbain, si on peut dire ça. Donc, ma question concerne l'aspect géographique des réseaux médicaux qui semblent de façon se constituer en tant que réseau, comme on peut l'expliquer. Donc, est-ce que, du coup, vous avez observé la géographie des villes et vous avez noté s'il y a des quartiers où il y a un type de médecine, des guérisseurs qui s'installent dans le quartier, joignent en masseuse, en etc. Qui se joignent sous un même toit.
Ok, merci. Alors, bon, pour votre première question, oui, j'ai identifié les réseaux urbains, enfin, j'ai situé tout ça sur une carte. Alors, Chanard en dessous, donc, c'est une capitale régionale qui a plus de 150 000 habitants et dont chaque année, les villages de périphérie urbaine intègrent la ville, donc ça reste quand même une ville assez conséquente. Donc, il n'y a pas de quartier dédié à tel ou tel soin. La ville de Chanard en dessous compte deux hôpitaux. Deux centres d'accueil pour les malades, centres donc luthériens d'exorcisme protestant, et des centaines et des centaines de devins guérisseurs qui, pour le coup, ne s'installent pas quelque part, qui, eux, sont là, ont récupéré la maison familiale et les outils thérapeutiques et rituels de leurs parents, grands-parents. Donc là, ils sont par contre complètement inclus au paysage, qu'ils soient urbains ou ruraux d'ailleurs. Et alors après, par contre, pour ce qui est des périphéries urbaines et de l'approche campagne environnante, là pour le coup, l'exorcisme va se faire à la paroisse protestante locale. Il n'y a évidemment pas de centre d'accueil précis dans des localités plus petites. Il y aura toujours au moins un guérisseur, un devin guérisseur, ça, il y en aura toujours au moins un ou deux. Et en revanche, la biomédecine est extrêmement rare en milieu rural, quoi. Et quand bien même il y a un dispensaire, ce que je disais tout à l'heure, ça sera une infirmière qui passera deux fois par semaine. Donc il n'y a pas des résidences, il n'y a pas des zones en fait cantonnées à tel ou tel type de thérapeutique. Et donc pour ce qui est des collaborations, c'est ce que je disais, la plupart du temps elles sont silencieuses et officieuses, donc il n'y a pas d'établissement où différents thérapeutes vont se rejoindre. Ça se fait toujours officieusement. Quand un biomédecin envoie un malade auprès d'un devin guérisseur, il va lui donner son adresse et le malade va se rendre au domicile du devin guérisseur. C'est jamais le devin guérisseur qui va se rendre à l'hôpital. En revanche, la femme médecin du dispensaire luthérien fait des tournées mensuelles au centre d'accueil des malades. Dès qu'un nouveau malade arrive au centre d'accueil, il est conduit au dispensaire où le médecin lui fait sa feuille d'entrée, un premier diagnostic, auscultation, il est pesé, pris la tension, etc. Ce qui valide son entrée au centre. Et même chose pour la sortie. Hormis les fugues ou les récupérations par les familles qui ne peuvent plus venir en aide aux frais, bon, il y a quelques, c'est pas extrêmement cher, mais bon, il y a quand même quelques frais de bouche et de logement, donc quand les familles ne peuvent plus, elles sortent un malade, mais théoriquement, selon les règles du centre d'accueil, aucun malade ne sort sans avoir eu la validation en amont du médecin du dispensaire.
D'autres questions ? S'il n'y en a pas, on va enchaîner.
Je précise juste une chose que j'ai pas eu le temps de dire et qui va peut-être éclairer un petit peu. Pour ce qui est des centres d'accueil du mouvement de réveil et d'ailleurs des consultants qui vont chez les devins guérisseurs, ça n'implique absolument pas une conversion ou un changement radical des pratiques antérieures et postérieures. Enfin, pour ce qui est des centres d'accueil protestants, enfin, dans ma thèse, j'ai travaillé l'idée de conversion temporaire ou de conversion thérapeutique, c'est-à-dire le temps du soin, on est protestant. Ok, on prie, on se fait exorciser, on va voir le pasteur, mais dès que c'est fini, on revient catholique, évangélique ou non.
Ça passe par une conversion temporaire ou pas vraiment...
Alors, les malades vont dire oui, je suis protestant, tant qu'il y a un exorciste à côté ou un pasteur à côté, une fois qu'ils ne sont plus là, ils vont dire non, mais je suis catholique et puis je retournerai à l'église catholique en sortant. Eux ne parlent pas de conversion, en revanche, les exorcistes et les pasteurs, oui, ils convertissent.
Ah. Voilà. Très bien.
Merci.
S'il n'y a pas de questions, c'est sûr, on enchaîne, comme ça on rattrape un tout petit peu notre retard. Alors on va écouter maintenant Delphine Burguet, qui va nous parler, alors le titre de sa communication, c'est « Renforcer la guérison par la performance rituelle, ethnographie d'une cure non ordinaire à l'intérieur ».